Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
Balade virtuelle en Bauge. L'idée de ces émissions vient de l'envie de mettre à profit la situation difficile que nous vivons actuellement et de nous évader en balade virtuelle et de compenser le manque de mobilité en faisant appel à notre mémoire et imagination pour visualiser des lieux, des paysages que nous connaissons bien, peu ou pas, et les explorer plus en profondeur. Au gré des mots, nous allons entremêler l'histoire et les histoires, les contes et les récits, la géographie et la géologie, le patrimoine et les traditions de notre territoire, en combinant le sérieux et la fantaisie, l'authentique et l'imaginaire. Si, au cours de ce programme, vous reviennent des souvenirs et des connaissances, des anecdotes ou des histoires, si vous avez des questions ou voulez apporter des précisions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors donc, commençons. Fermons les yeux et au fil du récit, laissons images, sensations, souvenirs reconstruire le puzzle.
Balade en Bauge, épisode 2.
Bon, alors après avoir créé les montagnes, après avoir vu des dragons, on va revenir quand même tranquillement à notre rando, hein, où on s'était arrêté en arrivant sur la route, toujours attention aux voitures, hein, et je vous faisais avancer pour aller voir le pont. Donc on descend un petit peu la route à droite, et après quelques pas, on le voit, ça y est. Alors c'est vrai que lorsqu'on descend en voiture, on ne se rend pas tout de suite compte de la profondeur, hein, de ce que ça représente. Alors que, évidemment, comme nous, lorsqu'on vient de la grimper à pied, on a une vague idée, hein, enfin, surtout au niveau des mollets. Mais voilà, donc il faut bien avancer, c'est ce qu'on va faire. On descend encore et on arrive sur le pont lui-même.
Il suffit de passer le pont. C'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon. Je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie. Jetons mes sabots, tes galoches, et légers comme des cabris. Courons après les sons de cloche. Ding ding dong, les matines sonnent en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne. J'ai graissé la patte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon. Courons guilleur et guillerette. Il suffit de passer le pont. Et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la prime verte. J'en vois une blottie sous les feuilles. Elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille. Je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de trois petits bonds. C'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon. J'aurais ménagé tes dentelles. J'ai graissé la patte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'or m'a mis sans croire au danger. Faisons mille et une gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse. Si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas mamie qui souffre. Je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher. On peut s'aimer comme bon nous semble. Et tant mieux si c'est un péché. Nous irons en enfer ensemble. Il suffit de passer le pont. laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon.
Acheminons-nous à présent vers le milieu du pont. Alors vous pourriez me poser la question, pourquoi construire un pont ici, hein, ce grand trou. Alors justement, ce grand trou, ça permet si on construit un pont, de rejoindre les villages de Cusy et de Gruffy sans descendre jusqu'en bas et sans avoir à remonter. Sinon, c'est un long détour pour passer par les ponts de Banche, par exemple, ou alors passer par les passerelles dont vous vous souvenez, je vous en avais parlé, les fameuses passerelles, mais là, il fallait payer le droit de traverser. Eh oui, toujours une question de gros sous. Rien ne change. Et oui, c'est quand on arrive sur le pont qu'on se rend compte qu'il y a quand même effectivement un abîme et que le nom est bien mérité. Juste avant de rejoindre le pont, une petite précision géologique pour les amateurs. C'est une curiosité, mais elle ne saute pas aux yeux. Les falaises et les sommets qui se dressent face à nous, de l'autre côté du pont, ont une particularité. Elles illustrent la théorie de la tartine beurrée. À savoir qu'elle tombe toujours du mauvais côté. Et ici, c'est un peu la même chose. Lors de la poussée des plaques et du soulèvement des couches sédimentaires, celles-ci furent bloquées par une partie plus dure, se dressèrent et retombèrent, mais, forcément, du mauvais côté. Ce qui fait que, depuis, on a une inversion des couches. Les plus anciennes se retrouvent au-dessus des plus récentes. J'avoue que tout ça, on me l'a dit lors de présentations géologiques, sinon je n'aurais pas été capable de discerner la chose. Mais en le sachant, je pense que c'est un fait remarquable, un de plus, qui illustre bien l'extraordinaire puissance de la Terre et de ses manifestations. Et plus on en parle, plus je pense que c'est quelque chose d'important. Bon, après un aperçu du contexte géologique, passons au contexte historique. Alors, pendant longtemps, l'accès dans les Bauges s'est fait depuis la Combe de Savoie, voie de passage très importante depuis des temps immémoriaux. Seulement, l'accès se faisait par des chemins très raides, étroits, non carrossables. Les transports s'effectuaient à dos de mulet. Par exemple, le minerai destiné aux fourneaux des Bauges était transporté par des trains de mules. De plus, les hivers étant plus rigoureux, les cols étaient souvent inaccessibles et dangereux, pris par les neiges. Entre parenthèses, la vie est quand même pas toujours bien faite. Pendant très longtemps, la neige a été un obstacle et maintenant, c'est un atout. Pour les skieurs, bien sûr. et pour l'économie locale. Et maintenant que ce serait vraiment un apport très, très, très important, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et, par exemple, on parle encore, dans les ouvrages du 19e siècle, du plateau de Sainte-Reine, pris 9 mois par an par les neiges. Peut-être qu'ils exagèrent un peu, mais quand même, par rapport à maintenant, ça fait une sacrée différence. Mais, foin de digression, revenons à notre pont et au contexte historique. Donc, je vous disais, l'administration sarde décide, à partir de 1830, d'élargir, d'agrandir ou de créer des routes. Alors, au passage, une fois de plus, une petite digression, lorsqu'on dit l'administration sarde, c'est pour faire plus court. On devrait se référer au royaume Piémont-Sardaigne, gouverné par la Maison de Savoie. Mais dans beaucoup d'ouvrages, on va parler plutôt de gouvernement sarde. Et on décide d'agrandir les routes qui partaient des Bauges derrière. Par exemple, la route qui permettait d'accéder depuis Aix-les-Bains jusqu'au cœur des Bauges en passant par Cusy, est ouverte en 1854. Or, elle passe à côté de l'actuel pont de l'Abîme. Germe donc l'idée de construire un pont reliant Cusy et Gruffy par-dessus le Chéran. Ça, c'est en 1855. Mais en parler, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et c'est là où ça coince. Parce qu'en effet, déjà dès le départ, l'ingénieur voyer de l'époque était contre. Puis vinrent des objections financières, et puis il a fallu choisir le produit, le projet. Tout le monde était d'accord si l'État payait. J'ai déjà entendu ça quelque part. Alors, plusieurs sociétés proposèrent leur devis. Il y eut 6 projets de ponts en briques, en béton, en métal. Tous tournaient entre 110 et 180 000 francs or de l'époque. Ce qui était quand même une somme importante. Tous, sauf un. Le projet Arnaudin, qui, en plus du coût moindre, proposait un procédé nouveau, à savoir un pont suspendu par des câbles d'acier torsadé. Ce qui présentait l'avantage d'être plus résistant, les fils se resserrant lors du passage d'un véhicule lourd. En réduisant la largeur à une voie, on arriva à un devis de 60 000 francs et on arriva aussi à se mettre d'accord entre l'État, le département et les villages de Cusy et Gruffy. Si arriver à un accord avait pris du temps, plus de 25 ans, je vous rappelle, on avait commencé à en parler en 1855 et le pont, lui, fut commencé en 1887 et il fut fini en 1888. Donc la construction a été beaucoup, beaucoup plus rapide. Alors, on voit bien le câble, parce qu'il y a un seul câble, en fait, qui fait le tour. Alors, il fait le tour, c'est-à-dire que derrière nous, par la route d'accès, c'est celle qu'on vient d'emprunter, vous voyez, ça fait un petit peu, si on se retourne, ça fait un peu comme une grotte qui a été creusée. On a créé, en creusant, un énorme pilier, et donc les câbles, enfin les passages du câble, se font derrière cet énorme pilier en calcaire. Et en plus, la société Arnaudin a assuré la maintenance du pont jusqu'en 1966, soit environ un siècle après sa construction. Date à laquelle elle a fait une visite, à titre gracieux d'ailleurs, une visite d'inspection. Pour en revenir au coût, en définitive, il a été réparti de la manière suivante. La prise en charge par l'État était de 48 750 francs, le département 12 750, Gruffy, le village de Gruffy, 3000, et Cusy, 500. Je pense qu'il est arrivé à plusieurs d'entre vous, au cours de son existence, d'aller cueillir des cyclamens. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, c'était vrai à cette époque-là, sauf que là, le contexte était différent, pour deux raisons. D'abord, bien sûr, comme je l'ai dit, améliorer ses revenus, mais aussi parce que c'était l'âge d'or du chemin de fer qui se développait, qui permettait de se déplacer plus rapidement. Donc les enfants cueillaient les cyclamens, en faisaient des bouquets qu'ils remettaient à un compère qui montait à Paris en train et revendaient les bouquets aux belles dames, bouquets odorants, aux belles dames qui allaient à l'opéra. Et tout ça, ça se faisait dans la journée. Thank you. Dès qu'il est construit, le pont devient un site touristique à visiter. Touristique parce que le tourisme avait commencé à prendre son essor. Alors tourisme, je dirais, de haut vol, hein, des personnages plutôt huppés, qui étaient très souvent en cure à Aix-les-Bains. Hein, Aix-les-Bains, déjà à l'époque romaine, était connu pour ces termes. Et au 19e, deuxième moitié 19e, vous aviez une clientèle riche qui venait prendre les eaux. Par exemple, la reine Victoria est venue avec Aix-les-Bains. Et bon, il prenait les eaux le matin. Et puis, l'après-midi, c'était consacré à la visite du territoire. Et le pont de l'Abîme faisait partie de ces curiosités. Donc, qui dit touriste, dit source de revenus. Et ainsi, s'est installé un restaurant. Il y en eut même deux, un de chaque côté du pont. Et pour ceux qui les ont connus, le restaurant côté Cusy avait un vivier où l'on conservait les truites vouées à la casserole, hein, tristes, mais aussi source d'animation supplémentaire, hein, surtout pour les enfants. On reparlera des restaurants, mais aussi ce qui était très intéressant, c'est que toute une population s'est établie, une population de personnes qui profitaient de la venue des visiteurs pour arrondir leurs revenus, leur fin de mois. Chacun y allait de sa spécialité et ainsi on pouvait vendre son fromage, ses fruits, mais pas seulement. Donc vous aviez toutes ces personnes qui gravitaient autour du pont, avec également des animations diverses. On faisait de la musique, on dansait. Il y eut même un montreur d'ours venu d'Ariège. Il en avait entendu parler dans les Pyrénées, du pont de l'Abîme. C'était pas la porte à côté, mais... Donc il venait, il faisait danser son ours pour quelques sous. Il existe d'ailleurs une carte postale du dit personnage. Ah, il y avait particulièrement un restaurant, alors il y en a eu deux par la suite, mais on parlait surtout d'un restaurant qui était tenu par quelqu'un qui était chauve, un monsieur qui était connu pour être un fief et malin. Mais qui était chauve, et donc pour se moquer un peu, on l'appelait le frisé. Et ce frisé, comme je vous dis, c'était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche. Et donc, il y a plusieurs histoires à son sujet. Il y en a une qui est assez intéressante, qui illustre bien justement le caractère du personnage. Alors, comme je vous disais, il y avait des têtes couronnées qui venaient pour visiter. Et un jour, arrive le roi de Grèce, Michel de Grèce, qui vient visiter le pont et qui se restaure chez le frisé. Il prend une omelette, il déguste son omelette, tout va très bien. Puis, comme normal, il demande l'addition. Et lorsque l'addition arrive, là, l'addition est un petit peu élevée. Donc, bien que roi, le monarque lui fait remarquer, c'est un petit peu salé, si je peux me permettre. Les œufs sont donc si rares en Bauge pour que les omelettes soient si chères. Sans se dégonfler, le frisé répond « Non, Majesté, pas les œufs, mais les rois. » On dit que le roi s'en amusa et paya rubis sur l'ongle l'omelette qui était un peu chère. Alors, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à raconter de l'Abîme, mais c'est vrai. Alors, tout en étant toujours sur le pont, si vous regardez du côté plutôt est, vers les Bauges, on voit, on distingue parmi les arbres un rocher qui monte, un rocher isolé. Il faut le chercher un peu dans les arbres, mais si on regarde bien, là, vous le voyez, il est pas très haut, là, voilà. Donc, vous l'avez ? Très bien. Alors, ce rocher a une histoire, et elle est particulièrement intéressante parce que cette histoire reprend des atouts importants du défilé de Bange, à savoir les cyclamènes et le passage de la rivière. Donc, remontons à une époque éloignée et moyenâgeuse, et aussi très mouvementée, à l'époque où les seigneurs de Cusy et de Gruffy, les seigneurs donc de Compet et de Montmailleur, se battaient. Alors, se battaient d'ailleurs de manière très féroce. Hein. Donc, j'allais vous citer les noms, par exemple, qui font référence à cette férocité, à savoir, par exemple, le Préaussant ou la charnia, qui fait référence pour certains à un charnier. D'autres disent que c'était parce qu'il y avait une chenée, mais tout du moins, donc il y a des noms un petit peu sinistres qui rappellent cette époque très agitée, guerrière et sanglante. Et à force de se massacrer, un jour, le seigneur de Compey décida de prendre des mesures draconiennes pour arrêter ces batailles, cette guerre sanglante. Et donc, il décida de couper les ponts, c'est le cas de le dire, hein, de faire ça vraiment de manière pratique. Tout ce qui était pont, passerelle, était coupé, on empêchait le passage pour éviter justement de se battre. Et ça a fonctionné. Il n'y avait plus de bataille, il n'y avait plus de morts. Donc tout le monde était content. Tout le monde, non. Parce que vous aviez un jeune homme du Gruffy, Renaud de son nom, qui aimait une jeune fille de Cusy. Et forcément, comme il n'y avait plus de passage, eh ben, c'était compliqué de se voir. Ou alors il y avait un passage, mais il fallait faire un grand détour par le pont de Bange. Le pauvre arrivait exténué à Cusy et ça ne faisait pas les affaires forcément de la jeune fille. Mais le fameux Renaud avait de la ressource, et c'est amusant, comme quoi il n'y a pas de coïncidence. Donc ce fameux Renaud réfléchit et puis a trouvé la solution. Il va en forêt, cherche un jeune épicéa, là-bas, les branches, et ça lui fait une perche. Et ben comme son illustre successeur à quelques siècles près, Renaud la Villenie, il l'utilise comme une perche. C'est-à-dire ben, qu'il plante la perche et hop, passe de l'autre côté pour retomber dans les bras de sa bien-aimée. Donc ça marche pendant pas mal de temps. Hein. Et un jour, ça va être l'anniversaire de leur rencontre. Donc chacun se prépare de son côté. Mais il y avait une ombre au tableau. Depuis quelque temps, un ancien amoureux de la jeune fille, amoureux éconduit, un nommé Gondran, avait remarqué que de triste, elle était passée à une humeur joyeuse. Donc il se demandait ce qui se passait. Donc, suspicieux, il la suivit, il l'épia et découvrit le poteau rose. Alors là, c'était trop pour lui, vraiment, il était encore jaloux. Donc, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose, il faut que j'agisse. Donc, la veille de l'anniversaire, le fameux Gondran eut une idée. Il se dirigea vers l'endroit où Renaud dissimulait sa perche et il scia la perche aux trois quarts. Le jour de l'anniversaire arrive, Renaud se précipite, vêtu de son plus beau pourpoint, de même que de son côté, la jeune fille qui avait revêtu une magnifique robe pourpre brodée d'or du plus bel effet. Donc, Renaud se précipite vers la perche, la tête à tout à fait autre chose, ne vérifie rien du tout, se précipite, plante la perche et s'élance. Arrivé au milieu de la rivière, crac, la perche casse. Renaud est précipité dans l'abîme. Il essaye quand même d'attraper les bras que lui tend désespérément sa chère et tendre. Mais malheureusement, il y a trop d'élan, il est trop lourd. Malgré les efforts de la jeune femme, tous les deux sont emportés vers le fond du gouffre. Ils tombent, ils vont s'écraser au fond de l'abîme. Et à ce moment-là, au moment où justement leurs corps vont être déchiquetés par la terrible chute, tous les habitants les habitants des forêts de la vallée du Chéran, à savoir les biches, les cerfs, les chevreuils, mais aussi les fées, les sarvans, les petits lutins savoyards, tout ce qui adorait la princesse, dans leur esprit, font un vœu si puissant qu'au moment où ils vont effectivement donc atteindre le fond du gouffre, ils sont transformés en un immense bouquet d'étincelles, bouquet comme un feu d'artifice, et à chaque partie, à chaque goutte, si l'on peut dire, de ce gigantesque feu, vous avez, lorsqu'il tombe sur le sol, une petite cyclamène qui va pousser. Cyclamène de la couleur de la robe pourpre, avec un cœur brodé d'or, toujours comme la robe. Et c'est depuis cette époque que poussent les cyclamènes dans la vallée du Chéran. Mais ce n'est pas tout. Pour revenir à notre rocher, regardez-le. Eh oui, il a forme humaine. Ce rocher des amoureux a été érigé par les sarvans et êtres naturels et surnaturels en souvenir des deux amants à la fin tragique. Statue de la jeune fille, usée par les intempéries, mais toujours debout. C'est beau, non ? Alors ça, en fait, c'est la version soft. La version dure, c'est que il s'écrase malheureusement au fond du gouffre et le sang jaillit, éclabousse, et à chaque goutte, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot goutte pour le feu d'artifice, vous avez, goutte de sang, vous avez une cyclamène qui pousse. À vous de choisir la fin que vous préférez. Nous allons maintenant quitter le pont à proprement parler, mais avant de partir, jetons quand même un coup d'œil sur les fameuses tours Saint-Jacques dont je vous avais parlé et qui se dressent juste en face de nous. Alors, je vous rappelle, hein, c'est donc une épaule du Semnaud qui s'est détachée lors de la fonte des glaciers, créant ces trois colonnes, enfin, les trois colonnes les plus importantes, il y en a d'autres à côté, mais qui sont moins visibles. Alors ça, c'est la partie scientifique, hein. Il y a d'autres histoires pour la création, ça, on en parlera sûrement une autre fois. Je vous ai déjà raconté pas mal d'histoires. Et puis, ça va continuer, parce que si on quitte le pont de l'abîme, alors il y a deux possibilités, soit on part du côté des Bauges, on remonte en amont en suivant le cours du Chéran, ou alors on descend en aval pour rejoindre notre point de départ. Je choisis de partir du côté amont parce que en amont se trouvent d'autres endroits intéressants à découvrir.
Thank you. Et vous pouvez retrouver toutes les balades virtuelles de Bernard Martin sur notre site internet www.radioalto.info à la rubrique « Les racines du futur ».
Les racines du futur, une émission pour écouter les Vosges.